Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, chers auditeurs et chères auditrices, si vous nous rejoignez, ce n'est pas Bilal Nenman, mais bien Solal qui est aux commandes pour l'instant. Bilal a un tout petit peu de retard. Il ne serait tardé. Et oui, vous êtes bien sur votre quotidienne sportive Time Sport tous les soirs de 20h à minuit, les 20h. Excusez-nous pour le petit retard. Juste après, c'est Vanessa donc qui prendra les commandes de Beurre FM avec confidence. Là, tout de suite, on a de nombreux sujets qui nous ont été conseillés donc forcément par Bilal. Parmi lesquels donc la claque d'Arsenal que s'est mangé plutôt Lens. On va revenir sur ce sujet-là. Forcément, on a été très nombreux à regarder le match. Un match voilà où on avait des pronostics divers et variés. Et au final, personne n'avait vraiment prédit qu'Arsenal allait mettre une claque à Lens. On va parler ensuite donc du niveau de la Ligue 1 en Europe. Je pense que ça fera plutôt débat. Il y a Benji qui est là. Nan, on les retrouvera tout à l'heure. Et puis on finira par Marseille. Donc Marseille qui joue ce soir contre l'Ajax Amsterdam. Chers auditeurs, chères auditrices, restez avec nous. On est bel et bien donc dans Time Sport, 20h-21h.
Time Sport. Il est pour parler.
Et oui, chers amis, avec nous, forcément, on est accompagné de Adnan. Adnan, bonjour.
Bonsoir à tous.
Comment vas-tu, Adnan ?
Ça va. Bah là, heureux d'être là. On va aborder des gros sujets. Juste un petit bonjour à mon ami Omar que j'ai eu au téléphone juste avant. J'attends la maison de Chérizy, Omar.
Très bien, gros big up à Omar. Franchement, écoutez, on sort de l'émission d'Adil. Je sais pas si vous avez pu écouter, mais on le retrouvera forcément donc dès demain de 19h à 20h. Adil Farkan qui est toujours dans les studios de Beurre FM. Je vais passer donc la main à mon ami Benji. Benji, comment vas-tu?
Mais je vais très bien, Solal. Bonjour à toi. J'espère que tu vas très bien également. Bonjour à tous les auditeurs. Très heureux d'être là pour une nouvelle soirée Time Sport, bien évidemment. Très beau programme aujourd'hui. Hâte de débattre avec tout le monde autour de la table.
Bon, ça allait sur la route?
Moi, ça a été. Bah, étonnamment, écoute, moi, ça a roulé.
Étonnamment. Comme je vous ai dit, Bilal qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Il a un peu de retard, malheureusement. Il est pris donc dans les embouteillages parisiens. Si vous nous écoutez à bord de votre voiture, voilà, vous êtes sur la bonne fréquence. Écoutez, vous écoutez Beurre FM. On va passer donc la parole à Jason qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Jason.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux d'être là. Ça fait longtemps.
Ben oui, carrément.
Ça fait longtemps, les gars. Vous m'avez manqué, tous manqué. Mais voilà, je suis content d'être là. En plus, comme il l'a dit juste avant, il y a eu un bon programme. Franchement, Lens, Arsenal, Marseille, PSG, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Et puis voilà, on va le faire dans la bonne humeur, comme toujours.
Très bien, avant de revenir sur cette affiche d'hier soir de Ligue des Champions, Lens, Arsenal, on va quand même passer un petit mot à Julien qui est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Bah écoute, super, on aura l'occasion tout à l'heure donc d'un peu explorer ton parcours, de revenir sur ça forcément à l'occasion du coup du Special One. Ce sera juste après la pub les amis, ce sera vers 20h15, 20h16, donc ne ratez pas ce rendez-vous très important avec Julien. Forcément, on parlera de fond en comble de ton parcours et j'espère que ça intéressera nos auditeurs. En tout cas, les invités à chaque fois sont ouais, aux oignons, franchement.
C'est les
tous
meilleurs,
aussi
c'est
incroyable.
Les meilleurs, nos invités.
Tout à fait. Donc les amis, on est bel et bien sur la parole, sur les pourparlers, excusez-moi, et c'est parti.
Time Sport. Les pourparlers.
Alors Benji, Adnan et Jason, on va parler voilà de cette rencontre d'hier soir, Lens Arsenal qui a fait tant donc jaser les supporters du monde entier, forcément une grosse claque. Qu'est-ce que vous en pensez les gars, forcément? Est-ce que vous avez vu le match déjà?
Ouais, grosse claque clairement. On s'attendait pas à voir une équipe d'Arsenal martyriser cette équipe de Lens en 20-25 minutes. C'est vrai que le match était déjà plié. On savait que l'équipe d'Arsenal allait être supérieure. Moi, je m'attendais clairement à voir Arsenal s'imposer à domicile. Il n'y a pas de débat. Pour moi, on n'est pas sur une surprise. C'est juste que le score est très lourd très rapidement. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, c'était un exploit que Lens gagne le premier match à domicile. Par définition, un exploit, ça ne se reproduit pas. Donc, forcément, le résultat est logique. Sévère parce que ça arrive très vite dans la rencontre, mais on est face au leader de première ligue, face à une équipe du ventre mou plus de Ligue 1 actuellement, qui a eu un début de saison compliqué, qui est en train de se reconstruire petit à petit après beaucoup de départs. Donc forcément, c'est un résultat qui n'est pas étonnant, qui va faire mal à Lens. Maintenant, ça va être à eux de se relever, de se dire c'est qu'une défaite. Mais je pense que
tout n'est pas fini pour eux.
Tout n'est pas fini. Voilà, ils vont jouer face à Séville pour une qualification en Europa League désormais, ce qui serait déjà très bien. J'espère que ça va le faire parce que j'ai envie de voir ce Stade Bollaert continuer à jouer des matchs de Coupe d'Europe parce que le public est absolument fantastique. Et je pense qu'on aura le temps d'y revenir plus tard. Mais je pense que ce qui leur a vraiment cassé les jambes, c'est le résultat du PSV avant le match. Voilà, le fait de savoir que le PSV s'était imposé avant le début de rencontre, je pense que mentalement c'est aussi compliqué pour une équipe de dire qu'il faut aller gagner à Arsenal, à l'Emirates. Quand t'es une équipe comme Lens, que t'as moins de moyens, forcément, c'est un peu compliqué.
Moi, je suis d'accord avec toi, sauf que c'est très révélateur. On va en parler tout à l'heure, justement, du niveau du championnat français. N'oublions pas, c'est le premier du championnat anglais qui arrive très revanchards par rapport au match aller. Donc ils sont un petit peu dans un état d'esprit à 120% contre une équipe de Lens qui est que 6e du championnat de France. N'oublions pas que le championnat de France, c'est un petit peu, on considère 5e championnat européen, et face au premier du premier championnat européen. Donc
l'Eurodivisie passé devant d'ailleurs.
Ouais, et puis voilà, ouais, exactement. Forcément. Donc pour moi, voilà, Lens est arrivé justement 100% à peut-être à 100% justement de motivation, avec les mêmes ingrédients qu'ils ont fait au match aller, en pensant que en faisant la même chose, ils allaient réussir à avoir un résultat à peu près équivalent. Ils ont essayé de jouer bloc haut, essayer de les prendre en contre, etc. Sauf que non, enfin pour moi.
Tu avais bien prévu le coup cette fois-ci pour le match retour. Exactement. Les joueurs étaient plus motivés. Ça, tout ça fait la différence.
Il y avait un peu trop de pression pour une équipe comme Lens.
Trop de pression.
Qui manque d'expérience et qui manque de caractère, personnalité. On l'a vu hier sur les buts. Il y a beaucoup de buts largement évitables au départ. C'est la panique.
Mais,
l'enjeu.
Mais est-ce que tu es d'accord avec moi, Jason, qu'il y a des buts sur lesquels ou peut-être ils ont compter sur une décision arbitrale qu'ils ont l'habitude d'avoir en championnat de France.
Peut-être aussi. Hein.
Et en Ligue de Champions, ça passe pas.
Pardonne-moi.
Ou alors, quand il saute et qui lui accroche le maillot pour sauter plus haut que lui et qui croit que l'arbitre va siffler, malheureusement, en Ligue des Champions, c'est pas ça.
Ça pardonne pas.
Exactement.
Et puis, il y a, comme tu l'as très bien dit, Benji, juste avant, il y a aussi l'effet de surprise qu'il y avait au match aller, qu'il n'y a plus match retour.
Bien sûr, c'est ça.
Ils vont pas se faire avoir deux fois.
Exactement.
Vous aviez le soutien du public aussi au match aller. Il y avait la sensation, encore une fois, vous venez d'arriver, on vous connaît pas trop, on vous prend peut-être un peu de haut.
On sait ils ont pris de haut, ils sont arrivés les mains dans les poches.
On sait que les Anglais, Arsenal, par rapport à la Ligue 1, bon, ça, la Farmers League, comme ils nous appellent, voilà, ils ont un peu ce complexe de supériorité par rapport au championnat de France. Et d'ailleurs, la défaite est très mal passée. Pour les Anglais, perdre contre des Français, c'est toujours un peu la honte.
Tout à fait.
Donc moi, personnellement, je trouve que c'est pas une surprise, la défaite de Lens. Mais dans la manière, on sent qu'Arsenal s'est préparé pour faire un score.
Bien sûr.
Et on l'a senti. Chaque occasion, ça finissait quasiment dans les buts en première période. Donc à partir de là, on sentait que déjà Arsenal était dans son match. Et Lens, comme tu l'as dit juste avant, n'était déjà pas dedans.
Exactement.
Au vu du résultat déjà du PSV. Et je pense que pour un club comme ça, entendre de ce genre d'infos avant un match, ça peut te déstabiliser.
C'est compliqué.
Et ça se voit.
Et surtout quand on prend deux ou trois très rapidement dans la rencontre, où là tu te dis que maintenant il va falloir en mettre quatre à l'Emirates, c'est mission impossible. Surtout quand t'affrontes du coup l'un des favoris à la victoire finale de Ligue des Champions. Faut aussi remettre dans le contexte. Et puis le même Arsenal qu'il y a quelques années. Maintenant Arsenal est un favori au titre. T'as peut-être top 3-4 à la victoire finale en Ligue des Champions.
Et qu'avait qualif à assurer.
Et qu'avait qualif à assurer.
Pas qualifié.
Mais évidemment. Et quand t'es à domicile devant ton public face à une équipe qui t'a battu à l'aller, forcément tu n'as qu'une envie, c'est prendre ta revanche et ils l'ont fait de la plus belle des manières.
Après attention, c'est la première saison de Lens en Ligue des Champions depuis très longtemps.
Ouais.
Ils sont là pour apprendre.
Et c'est pas terminé.
Ils apprennent vite avec Arteta quand même. Je suis désolé.
Pour progresser, pour faire des erreurs. Et voilà, encore une fois, ils s'étaient pas habitués à ce type de prestations.
Voilà, c'était quand même un bonus qui passe.
C'est exactement ça.
C'est révélateur du championnat de France, comme tu l'as dit tout à l'heure. On en reviendra. On n'attendait pas du RC Lens qui termine dans les deux premiers à la base.
Ouais.
Sauf que
le début de parcours qu'ils font,
ils ont quand même donné.
Fait que.
C'est vrai,
on doit voilà exactement.
Et derrière, donc la réalité est revenue peut-être voilà.
Ouais, mais de manière assez brutale quand même.
Assez brutale.
Mais voilà, ils sont là pour apprendre. J'espère qu'ils ont appris. J'espère qu'ils seront plus timorés. Il y avait un truc qui était très, très, très marquant justement, c'est quand ils sont arrivés. Et on a l'habitude avec ces équipes-là, photo, tatati, tatata. Stop, arrêtons. Si t'arrives pas le couteau entre les dents, et ben malheureusement
pour certains,
à un moment.
Y a beau, mais c'est vrai qu'à Lens, c'est un club qu'on on va dire on aime tous un peu en France. On va accepter les Lillois, bien évidemment.
J'ai même aller plus loin, c'est le club français le plus anglais.
Voilà, aussi, il y a ce côté-là. Et il y a beaucoup de joueurs au parcours atypique. C'est un club aussi qu'on aime. Pourquoi ? Parce que c'est le genre
y a
de
des
club.
Belles histoires.
C'est le club où tu as un joueur il y a 5 ans, il est au chômage. T'en as un il y a 2 ans, il joue en Ligue 2. Ça c'est le il y a pas beaucoup de clubs en France comme
on
ça.
Est d'accord.
Et il y a ce côté
et
attachant.
Francaise n'y est pas étranger aussi Franck, là
voilà.
Par le développement des joueurs.
Exactement. Francaise aussi vient de loin, donc dans les vous savez Jean-Louis Leca qui était remplaçant hier. C'est un gardien, il a connu Bastia, il a fait des.
Exactement.
Il était là hier en Ligue des Champions, donc forcément il y a le côté émotif qui
il
prend
a fait
le dessus.
Toutes les bagarres de Ligue 1, mais.
Voilà. Sauf qu'en Ligue des Champions, la réalité elle arrive, voilà, tu joues contre des joueurs top niveau, ils n'ont pas rigolé avec vous hier, et puis voilà.
C'est ça, c'est tout. Non mais voilà, pour moi c'est reculer pour mieux sauter.
Alors les amis, je crois qu'on a une très très bonne nouvelle, ouais. Franchement, chers auditeurs et chères auditrices, Bilal Nedman vient d'arriver.
Alors merci hein, pour le début de cette de émission,
retour.
Désolé pour le retard, hein. On est à rendez-vous.
C'était
et,
mon rare.
Et, non, vraiment. Oui, c'est rare.
C'est rare.
Mais juste un truc, Bilal.
Ouais.
Ouais, quoi qu'il arrive, tu pourras toujours compter sur Solal.
Ah oui, Solal est bon. Exactement. Je lui dis, Solal, dans ses mêmes avec Yadjezon ou avec Benji, ouais, ils sont pas mal aussi.
Ils sont pas mal.
C'est pour ça.
Bravo, mec.
Oui, mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème avec les Lensois. C'est qu'on se prend encore une culottée, quoi. Une culottée, quoi.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Il faut le dire. Oui, ça va. On aime bien. On aime bien le chaudron Lensois.
Une grosse ambiance, d'ailleurs. Et respect, parce qu'hier, il y a 5-0.
Sans bagarre.
Encore dans le stade.
C'est toujours là. Quand même. Mais c'est vrai que Lens, ben justement, elle est passée au travers de cette rencontre.
Mais un joueur qui a l'image de tout ça, alors Benji, c'est Danso. Ouais. Danso qui est censé être le leader de cette équipe. Brice Samba, on sait, même un Medina, etc. Et tout, ils avaient tous la tête baissée sur le terrain dès le début de la rencontre.
Tout le monde a coulé.
Dès le premier but, voilà, ils n'étaient pas dedans.
Langage corporel de Brice Samba, à chaque but, il avait les bras qui tombaient.
Ça soufflait.
Mais après, attention. Il y a des choses qui sont factuelles. L'équipe est au-dessus. Ils étaient plus forts qu'eux. Et t'as beau t'exciter de venir, etc., etc. Malheureusement, quand t'as plus fort en face.
Je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, même s'il aurait eu une autre attitude, le score aurait été peut-être pareil. Mais je veux dire, il y a quand même un langage corporel qui trahit. Ça se voyait que, en fait, la valise allait arriver. Dès le premier but, deuxième but, tu le sens. Voilà, l'autre il part dans la profondeur. Il y en a un, il lève déjà les bras. Enfin, tu regardes les buts, tu vois que, c'était déjà mort avant le match.
C'est clair, mais bon.
Ouais, ben on va marquer d'une courte pause. On va revenir beaucoup plus tonitruant. Je vous inquiétez pas, chers auditrices et auditeurs, parce que là, on s'endort un peu. Allez, à de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h18 en ce jeudi 30 novembre, dernier jour. Demain, on passera, et oui, sur le mois de décembre, chers auditeurs et auditrices, le 01 53 48 3000. Et en revenant, c'est Fala qu'on aura dans cette émission, c'est promis, notre consultant de Time Sport. Allez, sans plus tarder, place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The special one.
Ah ben il a ses shows sur la réalisation ce soir, hein. Voilà, toujours comme ça. Il a présenté le début de cette émission. On est en compagnie de Benji, de Adnan, voilà, qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir, tout comme Jason. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Jason sur les ondes de Beurre FM. Ça fait grand plaisir de l'avoir, Jason, ce soir.
On est là à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations.
On en parlait avec Abdel.
On est là, on est de retour tranquillement.
Ah ben oui.
Voilà, je suis retour de blessure.
Beaucoup de blessés. D'entrée, il y en a eu des blessés, justement. Julien est OK avec nous, fondateur de Scalable, une boîte de conseils, c'est ça, une start-up de conseils en stratégie de développement, boxe et aussi dans le sport de combat depuis près de 10 ans. C'est bien ça. Bonsoir, Julien, comment ça va?
Bonsoir, mais écoute, ça va très très bien.
Tranquillement.
Merci pour cet accueil.
Ouais. Ça va. Ah ben ouais, on va essayer de te mettre à l'aise, Julien, pour revenir un peu sur cette boîte qui est Scalable. En quoi elle consiste? À qui elle est destinée, justement, cette boîte de conseils, notamment en stratégie de développement, du moins pour nos sportifs actuels et nos anciens? Alors, pour qui, concrètement?
Pour les dirigeants.
Ouais, pour les dirigeants.
Ceux qui possèdent une entreprise.
Voilà. Pour les dirigeants. Ça, c'est bon. Ouais.
Toutes les personnes qui possèdent une entreprise, donc ça peut être des sportifs. Pourquoi pas qui ont des super boîtes.
L'après-carrière.
Ouais. Pourquoi pas l'après-carrière?
Ouais, justement.
Le but, c'est de leur aider à aller chercher, enfin, de les aider à aller chercher de la croissance, en fait.
Ouais. Top. Et cette croissance, comment on l'aperçoit aujourd'hui sur le marché français? Sur le marché français.
Chez nous, elle se découpe en 4 points.
Alors.
Marketing.
Ouais.
Le produit.
Ouais.
L'acquisition, donc le fait de trouver des clients.
Ouais.
Et la croissance globale.
La croissance globale. Justement, la croissance globale.
Et le système, en fait, qu'on peut amener dans cette entreprise pour les faire avancer. J'aurais dû découper différemment. Marketing, produit, acquisition. Système. Je peux te détailler si tu veux tous ces différents points.
Ouais, les détailler. Ah, mais justement, on va aborder cela.
Ok.
Ouais, les détailler. Oui, Jason, peut-être.
Du coup, ta
réaction, parce que j'en ai beaucoup.
Ouais, non, je voulais savoir, bah, du coup, au niveau des profils, c'est très vaste, c'est très varié, parce que tu as dit, c'est tous ceux qui. Tous les entrepreneurs.
Dirigeants, anciens sportifs.
Alors, c'est des dirigeants déjà qui arrivent à faire de la trésorerie. C'est triste, mais il y a énormément de dirigeants qui font pas beaucoup de trésorerie. En général, ils vont commencer à 500 000. Ils vont finir à 2 millions d'euros dans ces eaux-là. Et la problématique qu'ils rencontrent, c'est qu'ils ne savent absolument pas comment développer leur boîte.
Et toi, c'est là où, en fait, tu.
C'est là qu'on intervient, pour leur libérer du temps surtout. Il y a beaucoup de dirigeants qui avancent et qui sont bloqués par leur boîte, alors qu'elle est créée à la base sur mesure. Tu vois, se retrouver à faire 80 heures par semaine et pas avoir une minute pour eux et pas avoir une minute pour faire du sport d'ailleurs.
D'accord.
C'est complètement bloqué.
Et justement, tu viens parler de ton parcours. Ton parcours en tant que sportif amateur, tu es un grand amateur de boxe.
Exactement.
MMA aussi, tu fais un peu de.
J'en ai fait.
T'en as fait.
Je concentre sur la boxe là, maintenant.
Du coup, d'où elle est venue cette passion
Pour les sports de combat.
Pour les sports de combat. Et ton parcours en fait, comment on en est arrivé là, voilà, un fan de sport.
C'est ça. Ouais.
Et à côté de ça, voilà, tu développes,
de Scalable,
voilà,
ouais.
tu développes plein de choses. Tu t'occupes aussi de gérer la croissance de certaines entreprises voilà, naissantes. Comment c'est arrivé tout ça en fait?
Je pense que le sport de combat, c'est tristement arrivé comme beaucoup de personnes. Tu sais, à la suite d'une agression, tu te dis je vais faire de la boxe pour pouvoir me défendre.
Ouais.
Et puis au bout de quelques années, tu te rends rapidement compte que bah, t'as, les gens que tu croises dans la rue n'ont pas spécialement de bon niveau en bagarre. Tu le comprends assez vite. Et puis tu chasses cette agressivité, puis tu gardes seulement le sport. Et puis tu apprends à te dépasser. Et tu fais la rencontre d'un sport rude qui t'amène énormément de très bonnes valeurs qui sont très 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 loin de la bagarre.
Parce que c'est des univers complètement opposés.
C'est un monde totalement différent, tu vois. Donc le projet qui m'a amené dans la boxe, c'était un projet peut-être de vengeance, j'en sais rien, ouais. N'a rien à voir avec ce que ça m'a apporté au bout. Et par contre, c'est très très lié à l'entrepreneuriat, tu vois.
Finalement.
Seul face à toi-même, la difficulté, savoir se relever, se dépasser tout le temps.
Ouais.
Prendre le goût de l'effort, voilà. Comme le business, beaucoup.
Finalement, il faut être dedans pour voir en fait le rapport entre ces deux univers.
Exactement.
Diamétralement opposés en fait.
Julien est avec nous sur l'antenne de BRF pour la première fois. Peut-être des réactions avec Adnan et aussi Benji. En revenant sur son parcours, mais pas que aussi. Scalable, fondateur.
Ouais, mais moi je voulais savoir du coup, parce que du coup tu dis que tu dégages du temps du coup au patron, c'est ton objectif pour pouvoir les aider à développer leur boîte. Du coup, je pense que tu dois être entouré aussi de certaines personnes, parce que tu peux pas gérer toi tout seul plusieurs entreprises.
C'est difficile, effectivement.
Voilà. Donc, du coup, comment tu t'organises toi de ce côté-là pour aussi toi de ton côté de déléguer et comment tu bosses, enfin voilà, comment tu diriges, comment t'as un œil sur un peu tout, voilà. On peut savoir.
En tout, on est 5, donc une équipe de 4 personnes avec moi. Et une de nos spécialités, c'est de créer des automatisations et des systèmes qui permettent de faire tourner les boîtes automatiquement. Mmh. Donc on évite de respecter cette fameuse règle du cordonnier très mal chaussé. Et on est bien chaussé. On a de belles automatisations qui nous permettent de suivre ce qui se passe dans l'entreprise et dans les entreprises de nos clients automatiquement, n'importe où, même maintenant si je veux, je peux avoir un œil là à 20h23. Ça marche.
Ouais. Ok. Et justement.
Petite question, moi, justement, par rapport à ce que tu disais, l'automatisation, c'est quoi que tu automatises? Est-ce que c'est par rapport à la gestion des stocks, par rapport aux horaires des salariés? Qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner du temps et forcément de l'argent par rapport justement à ce que tu mets en place en termes de process ou d'automatisation par des CRM ou autres?
Je pense que tu viens de donner déjà une variable super importante, les CRM.
Ouais.
C'est important d'en avoir.
C'est quoi les CRM?
C'est les centres de gestion client. Le fait de savoir.
Merci de le rappeler pour les auditeurs.
Où sont
c'est vrai.
Les clients.
Ah oui, parce qu'on a des néophytes aussi qui nous écoutent. Les CRM,
on comprend très bien.
On va plutôt partir dans le délire des CM.
Ouais.
C'est vrai. Il faut penser à tout le monde.
C'est un bon lien. On écoute Julien. Il faut donner des précisions, c'est vrai. Et puis il y a également une chose qu'on peut automatiser, c'est la comptabilité. Et ça, c'est la bête noire d'énormément de dirigeants qui estiment qu'atypique que la comptabilité n'est jamais aussi bien faite que par eux et qui vont aller s'enquiller 10-15 heures de compta alors qu'ils font 1 million d'euros par an, par exemple. Voilà. Comme on se retrouve à être à la fois dirigeant, comptable, chef de rayon, on répond aux mails. Ça va vite une journée quand on fait 4 jobs en même temps.
Ouais,
Justement, est-ce que tu as rencontré des sportifs ou des dirigeants d'associations sportives ou des clubs? Est-ce que ça t'a dans ton parcours?
Oui, j'ai pu rencontrer plusieurs sportifs.
Et quel type de sportif, par exemple?
Gérant de club de MMA, c'est important, sans donner de nom. Avec une gestion qui était vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on travaillait sur des fichiers Excel qu'on envoyait par mail, et comme la personne ne savait pas faire les modifications. Donc tu envoies un mail avec marqué tiens, est-ce que tu peux modifier la ligne 22, mettre une couleur rouge? Cette personne fait la modif, te renvoie ton fichier. Donc tu te retrouves avec deux fichiers, un modifié, un pas modifié. Tu vois, ça c'est quand même des actions qui s'automatisent.
Tu sais, par rapport au profil que tu viens de donner, généralement ces personnes-là qui sont présidents d'associations, etc., se retrouvent parachutées par hasard ou par la force des choses, et on leur donne la casquette de dirigeant, de président, d'assistante sociale, de trésorier, de comptable, de banquier, etc.
Scalable qui est là.
Et c'est vrai.
Il faut dire la vérité.
Par rapport à mon expérience, j'aurais aimé qu'on me donne un packaging justement de ce type.
Moi, direct, je vais aborder le cas pour moi.
Mais c'est plus des casquettes que toi.
Non, mais sérieux. Moi, Julien, merci. Mais voilà, c'est ça. Parce que par exemple, on peut s'occuper de campagnes de com, des trucs comme ça, ou même
on s'occupe
sur
de
commercial.
De...
Non, non, mais je veux vraiment très sérieux.
C'est, on s'occupe des éditeurs.
Voilà.
Exactement.
On vous laisse. On s'en occupe. Et vous, par exemple, sur une base de données qu'on peut vous fournir, ouais. Ben,
ou qu'on génère.
Pouvez, ouais, vous pouvez générer même.
On fait du clé en main.
Ah ben, du clé en main, c'est ça.
On fait du clé en main, on s'occupe de ça. Tu donnes un exemple par rapport au club associatif. Par exemple, un club qui va faire du MMA. Vu que le MMA le vend en poupe en ce moment, ça en devient des business. Donc il y a un moment, tu dois avoir cette casquette business et aller plus loin qu'un petit gérant de club loi 1901. Sinon, tu t'en sors pas en fait. Parce exactement. Que tu gères plus, tu gères des carrières. Tu gères des carrières, des contrats, voire des événements plus ou moins grands. Si tu crées des galas, et là, si t'as pas un minimum d'organisation, si tu fais tout au fichier Excel, ça va être très 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 compliqué quoi, d'avoir un peu de visu.
Réaction avec sur la réalisation, peut-être pour notre invité Julien Toquet.
Oui, tout à fait, pour tous les auditeurs et auditrices qui nous qui nous écoutent. Donc Julien et son équipe vous permettent donc de développer le plein potentiel de votre boîte avec un processus unique qui intègre donc l'intelligence artificielle. Alors moi j'avais une question à ce sujet-là.
Alors c'est laquelle ?
C'est un truc très en vogue en ce moment, l'intelligence artificielle. Pour vous dire, je peux te tutoyer, Julien ?
Je t'en prie.
Okay, pour te dire, ça m'arrive très fréquemment de l'utiliser à des fins diverses et variées. Et je voulais savoir quand est-ce qu'elle est venue, cette idée-là, d'inclure dans ce processus-là l'IA ? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a des limites au sein de votre entreprise ? J'imagine que ça vous aide à gagner un temps énorme. Mais voilà, quand est-ce que vous vous êtes dit, on va utiliser cette technique-là ou ce processus avec l'IA ? Et est-ce que ça a des limites aujourd'hui pour vous ?
Alors nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'utilise. Là, il y a ce petit côté buzz qui est arrivé. Mais je pense que c'est un petit peu comme toutes les technologies. D'abord, c'est utilisé en off, discrètement. Puis un jour, il y a un buzz, il y a quelque chose et tout le monde apprend que ça existe au travers de ChatGPT, par exemple. Bah, nous, on s'en servait déjà dans les automatisations pour régler des problématiques techniques qu'on n'avait pas envie de régler.
Et voilà. vous avez créé des logiciels donc à partir d'une IA. Comment ça s'est passé ? Vous avez eu recours à des développeurs qui vous ont donc créé tout un logiciel, un algorithme qui s'autogère à partir des IA ou c'est...
Alors, on a la chance justement grâce aux IA et à d'autres types d'automatisation de plus forcément avoir besoin de développeurs. On peut connecter des outils très facilement entre eux. Et également des intelligences artificielles qui nous permettent de gagner énormément de temps sur tout un tas de types de programmation. Et oui, bien sûr, il y a des limites, comme dans tout, évidemment. On peut pas tout faire avec.
Ouais. Et du coup, t'es entouré de spécialistes dans l'intelligence articielle, j'imagine.
Parce
Non, même pas.
Parce que du coup, c'est quand même compliqué. Enfin, parce que je sais que du coup, ça peut se faire automatiquement. Mais du coup, il faut quand même la nourrir correctement pour qu'elle te fasse le job entre guillemets. Donc, exactement. T'as quand même une formation, quelque chose, ou c'est toi qui t'en occupes, ou t'as quand même des gens.
C'est moi qui suis le spécialiste sur les automatisations et tout ce qui est tout le focus, la concentration qui est fait sur l'intelligence artificielle. Et non, j'ai pas de formation spécifique. J'ai pu apprendre énormément de choses. Oui, totalement autodidacte, mais il y a beaucoup de logiciels disponibles qui sont interconnectables. On n'a pas besoin de coder en fait techniquement, comme je pense tu le vois pour pouvoir s'en servir. Et ça, c'est génial.
Une petite question justement.
Alors,
en ces temps durs, le nerf de la guerre, on est pour des sociétés qui vont chercher des clients, c'est les prospects. Est-ce que toi, tu as des systèmes justement qui permettent à des sociétés, par exemple, d'aller récupérer des prospects, des contacts, etc., etc.
Exactement, bah oui.
C'est une solution, il se passait beaucoup de choses après cette émission.
C'est vrai. Aujourd'hui, justement, on est dans un contexte qui est très tendu et on sait très bien, justement, pour renouveler un petit peu le portefeuille client, etc. On va tout miser, justement, sur la prospection parce que il y a une baisse d'activité qui est alarmant chez les clients et le but, c'est d'aller chercher d'autres clients pour pouvoir justement pallier à ce manque. Et est-ce que toi, tu as des systèmes qui fait que les sociétés peuvent les aider à les prospecter?
Avec plaisir. Bah, en utilisant par exemple l'intelligence artificielle de Google qui récupère un maximum de nos données depuis tant d'années. Là, ils arrivent sur un produit, on va l'appeler comme ça, qui commence à être très performant et ils ont tellement de données sur nous qui repasse et repasse avec de l'intelligence artificielle, que faire de la publicité envers les bonnes personnes, bon, avec un petit peu d'expertise bien sûr, ça se fait très vite, très fort, et c'est pas forcément très cher. C'est ça qui est génial. Et ça, c'est des systèmes qu'on met en place directement chez nos clients, parce que pour trouver de nouveaux prospects, c'est super efficace.
Très intéressant, Julien. On va terminer avec Jason.
Justement, on va terminer, on va revenir un peu plus sur la partie sport.
Sur le sport.
Sur la partie sport.
Avant de revenir sur Grosso Lyon.
Tu nous as dit que tu venais du milieu, on va dire, de la boxe et du sport de combat en général. Est-ce que tu as des combattants qui te fascinent dans le MMA? Est-ce que t'as... C'est qu'en ce moment, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des choses un peu en vogue en ce moment, et le MMA, c'est en pleine expansion, c'est vraiment la période du MMA. Les combats maintenant, c'est devenu un vrai spectacle, un vrai show. 6 mois en avance, on est excité. Alors qu'il y a quelques années, en France en tout cas, c'était pas du tout le cas. Au terme de boxe aussi, est-ce qu'il y a... Voilà, on a eu Tyson Fury et Ngannou il y a pas longtemps. Pareil, engouement incroyable. Est-ce que toi, tu as des idoles ou tu as des gens qui te fascinent qui, dans ce sport, évidemment, toutes proportions gardées. Dis-nous tout par rapport à ça.
En ce moment, bah, celui qui est en train de réaliser une petite masterclass sur le sujet, je pense que c'est Cédric Doumbé. Hein.
Bien évidemment, je ne l'ai pas cité, mais bah, je sais que tu t'attendais.
Jordan, nous fait, Jordan
un fabuleux mélange entre le business, le fight, le marketing, c'est magnifique.
On dirait parce qu'il est bon dans tout, en fait. On se rend compte qu'il est. Enfin, dans tout. Dans pas mal de choses.
Il sait utiliser ses timings, parce que être bon, ça fait longtemps qu'il est bon. Tu vois, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans. Mm. Bah, il a toujours été comme ça, mais il l'était dans un sport un peu off, qui est le kickboxing. Tu vois, les gens ne regardaient pas spécialement. Donc, il avait la même attitude, sauf que maintenant, il a la bonne attitude et la lumière. Tu vois, tu peux créer un banger chez tes rappeurs, tu peux créer un banger chez toi. Peut-être que 10 ans plus tard, avec un petit peu plus de lumière, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quoi.
Ah, mais c'est surtout quel résultat derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a beau faire du talk show, etc. etc. mais s'il était, il éteint pas son adversaire en 9 secondes, ça fait pas autant de bruit que ça.
Il y a des paris, c'est vrai.
Du coup, c'est Eric Doumbé et t'en as d'autres aussi en France ou ailleurs, peu importe, international.
J'aime beaucoup la trajectoire de Cyril aussi, Cyril Gane, qui est pas mal. Pour l'instant, on le voit pas trop, mais je pense qu'au prochain UFC Paris, on le reverra. Ouais. Benoît Saint-Denis, vraiment le trio classique dont on parle le plus.
La Trinité.
MMA avec Julien Toquet. Oui, Solal, on termine.
Oui, parce qu'il y a Lyon qui nous attend. Très nombreux à réagir sur Twitter et aussi au 01 53 48 3000. Il y a des questions comme ça, j'en lis une. J'ai pioché au hasard. Donc, tu as Hippolyte, Julien, pour te dire, qui te pose une question et qui te dit: quel conseil tu donnerais à un jeune débrouillard, un jeune hustler qui lance sa boîte?
Un conseil pour un jeune hustler qui lance sa boîte. Alors déjà, il sait qu'il faut hustler, donc ça déjà c'est pas mal. Il a compris un truc pas mal. Et après, le conseil, je pense, principal, c'est bien sûr le classique de jamais lâcher l'affaire, hein, tu connais, et d'être ok avec le fait de rencontrer des obstacles, parce que c'est obligatoire. Parfois, on m'envoie des messages comme ça en me disant voilà, j'aimerais bien utiliser ton parcours pour éviter de rencontrer des obstacles. C'est bien sûr impossible. Je te souhaite de rencontrer un maximum de murs, parce que ça apprendra à prendre des coups et à te relever.
Comme à la boxe, chaque expérience est bonne à prendre. Je pense que quand tu crées ta boîte,
surtout les mauvaises.
Voilà, exactement. C'est en justement faisant des mauvaises que tu construis et que tu permets de plus faire ces erreurs et après de te développer au maximum.
Eh bien, écoute, Hippolyte, si tu nous écoutes, tu as ta réponse. Merci Julien Etoké. N'hésitez pas à réagir pareil sur Twitter.
Julien Etoké avec Sky Label qui promettent justement plus de 30% en moyenne dès la première année. Voilà,
de chiffre d'affaires dès la première année.
C'est ça.
Et où on peut te retrouver pour terminer justement si, alors, comme là, Hippolyte, là, par exemple.
Sur à peu près tous les réseaux. Donc, Julien Etoké, vous me trouvez directement. Ou Sky Label.
Skylabel.fr.
Skylabel.fr, on me trouve aussi très facilement.
C'est ça. Il est magnifiquement bien fait, épuré et simple, le site internet français. Julien Etoké, un grand merci d'avoir été avec nous. Bah écoute, vous allez rester avec nous, oui, jusqu'à la fin.
Bien sûr.
On va un peu tailler les Lyonnais. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? On va tailler les Lyonnais, on va tailler les Marseillais aussi.
C'est parti, Bilal.
On va tailler tout le monde. On a le temps de les tailler ou on va revenir? On va revenir. Allez, c'est promis.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nedman sur Beurre FM.
Et toujours en compagnie de Julien Etoké, le fondateur, justement ancien athlète et fondateur de cette magnifique start-up qui est Skylabel.fr, qu'on pourra retrouver sur les réseaux sociaux et notamment avec Julien Etoké, hein, sur tous les réseaux sociaux. On a parlé de Lens, on va revenir sur le niveau du football français et aussi encore cette façon de renvoyer des entraîneurs, mauvais coaching, peut-être mauvaise trajectoire. Allez, on rejoint le club rhodanien cette fois.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, Benji, il part, il s'en va.
Ouais.
Grosso, on sait pas qui arrive. On sait même pas qui vient, voilà.
Et bah, encore une fois, c'est tombé cet après-midi. Ouais. Fabio Grosso mis à pied par le club lyonnais.
Football français.
C'est Pierre Sage, du coup, qui était en charge
du centre de formation.
Du centre de formation, exactement. Qui va prendre le relais, Pierre Sage, qu'on avait pu notamment voir qu'en tant qu'assistant au Red Star, qui a fait une très bonne chose avec Abby Bay, qui a installé beaucoup de choses très très intéressantes, qui est une vraiment. Du football qui moi me parle énormément. Donc j'attends de voir l'intérim. Je pense que c'est une bonne chose pour moi. C'était inévitable de se séparer de Grosso après les performances absolument affreuses qu'il avait fait. Pas dans le Stéva qu'on va dire, ça fait que 7 matchs, compliqué. Mais ce qu'il a mis en place,
on change trop. C'est ça qui est pas bon.
Je suis totalement d'accord avec toi, mais le problème c'est que Lyon avait besoin d'un pompier et que là ils ont juste récupéré un professeur principal qui tape sur les doigts au hasard et qui se met le vestiaire trop vite à dos et qui va pas aider les joueurs à tirer leur plein potentiel en le mettant dans des bonnes conditions.
Il y a une info qui vient de tomber.
Alors l'info, allez, vas-y Jason.
Le retour de Juninho.
On a beaucoup de personnes.
Le départ de Grosso, c'est pas un simple hasard. Il y avait toute une stratégie et une restructuration de, comment on appelle ça,
l'organigramme
de l'Olympique Lyonnais qui est en train de se faire tranquillement. Est-ce que c'est le bon moment? Ça, c'est une autre question. On est au mois de novembre, dans une saison catastrophique au niveau du club, au niveau du comptable, à tous les niveaux d'ailleurs, supporters et tout. Bref, à Lyon, c'est vraiment compliqué. Là, on est en train de remodifier tout l'organigramme du club en pleine saison. Est-ce que le timing va pas encore créer des problèmes supplémentaires?
C'est ça.
Moi, je me pose aussi la question.
Il faut.
Est-ce que c'est vraiment une solution de tout changer maintenant et pas attendre la trêve?
Déjà, fallait épurer tout ça.
On a pas mal de monde
épurer tout ça et c'était le bordel. Donc là, ils vont à l'essentiel. Ils mettent
des choses qui doivent être faites en été.
Je pense que même Juninho, je crois qu'il est pas là physiquement. Il sera au club
une semaine par mois.
Voilà. Donc il sera pas là physiquement. Il y a une autre info qui est tombée, qui est passée inaperçue, mais je crois qu'il y a un licenciement justement de Bruno Cheroux aussi.
Parce qu'il avait déplacé de ses fonctions.
Exactement.
Il n'avait pas été renvoyé, mais il était là.
Et sur le point d'être viré. Donc effectivement, le seul souci, je suis pas d'accord avec toi Benji, parce que tu te contentes de Bruno Sage.
De Pierre Sage.
De Pierre Sage. Alors non, mais qui est l'adjoint. D'Abib Bey qui était en national.
De formation.
Alors, donc aujourd'hui Lyon c'est ça. Non, c'est l'adjoint
d'Abib
Bey.
Il est là
par intérim.
Formation, c'est quelqu'un qui est venu au club.
Mais tu veux pas éviter justement cet épisode-là d'aller chercher directement un pompier de service et de le mettre au club directement que d'aller mettre encore l'intérimaire d'un entraîneur qui est en national.
Je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. Je vais te dire,
c'est Badji. Premièrement,
on va essayer de mettre un intérim. Il y a Farah et Nasser aussi au standard. Précipiter et prendre encore un entraîneur.
Mais des pompiers, moi je te donne la liste. D'accord, des pompiers de service.
Il faut les amener. Moi ce que je te dis, premièrement, c'est que comment Fabio Grosso avait le vestiaire totalement en dos, ça ne pouvait plus tirer dans le fond, il fallait s'en séparer, c'était inévitable.
Oui, bien sûr.
Le match officiel qui jouait, c'était
une erreur
d'entraînement pour lui.
Il a fait une erreur.
Il faisait des changements toutes les 20 minutes.
Non, mais c'est surtout qu'il
a un œil aussi au passage.
Il a fait une erreur. C'est que quand tu arrives dans une opération son commando pour redresser le club et surtout le maintenir, normalement tu dois faire en sorte de fédérer le groupe. Exactement. Et qu'il soit avec toi.
Alors,
à partir du moment où tu, comme tu l'as dit, taper sur le doigt des joueurs, punir un tel, le mettre dans les tribunes, le rappeler deux semaines après titulaire,
après,
c'est
ce qu'on
je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi un manque de discipline à l'OL qui est installé depuis.
Alors,
quand tu es footballeur professionnel, et d'ailleurs peu importe même. Peu importe ce que tu fais dans la vie, on te convoque à un rendez-vous particulièrement là, un match important, t'es en retard à la causerie. Il pouvait pas faire aussi autre chose. Après,
je suis d'accord
qu'il a un peu fait du zèle sur certains.
On a
un casette sur le banc. Après,
on a un auditeur, Jason, qui suit de près l'Olympique Lyonnais à chaque fois. Il nous contacte. C'est Farid. Bonsoir Farid. Farid, comment ça va?
Bonsoir Bilal.
Bonsoir Farid.
Bonsoir à tous. Ça va
les
très
Lyonnais.
Bien.
Merci à vous. Ouais, les Lyonnais. Les Lyonnais. Ça, je sais pas si ça va pour les Lyonnais, Farid.
Non, on va valider quand même. C'est une saison galère, finalement.
Difficile de dire contre.
Bon, peut-être, ça nous change un peu. On n'avait pas l'habitude. Maintenant, c'est vrai que je rejoins un peu votre collaborateur. Là, je pense que Fabio Grosso, c'était compliqué. Sincèrement, moi, j'ai été énormément déçu quand même. Je m'attendais à autre chose. Il a quand même eu 7 matchs. À la fois, c'est peut-être court pour certains, mais 7 journées, c'est quand même pas mal. Et on a vu dès le premier match, je pense à un jeune entraîneur qui a besoin de se prouver et prouver certaines décisions. Quand on voit à Brest qu'il avait mis Ryan Cherki sur le banc, c'était un peu trop violent d'entrer comme ça. Et puis la Lacazette dernièrement, les deux derniers matchs où un coup il le fait jouer, première mi-temps,
Est-ce que c'est la faute à Grosso qu'on est venu chercher, ou est-ce que c'est la faute à la direction qui n'a pas identifié le bon entraîneur adéquat?
Et c'est pour pas la première fois en plus.
On est d'accord.
Mais
on l'a tous vu dès qu'il est arrivé. Ça allait être.
C'était pas lui.
Exactement.
C'était pas lui.
Merci Jason.
Ça c'est évident.
Après c'est vrai que John Textor, il est pas dupe, il est pas naïf. Je pense qu'il a vu qu'il a besoin d'être épaulé. D'ailleurs, comme vous disiez, apparemment, Juninho devrait être son conseiller sportif.
Oui, c'est officiel.
Et peut-être le retour de Genesio. Juninho,
Moi, j'ai rien contre Juninho. Bien sûr, c'est la légende, c'est notre légende à Lyon.
Mais
moi, je fais très attention au sentimental. Maintenant, Juninho, conseiller sportif, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il pourra donner quelques conseils, il n'y a pas de problème. Mais faut rappeler aussi que quand il était venu à Lyon, malgré tout, même si ce qui s'est passé avec Jean-Michel Aulas, il avait quand même ramené Silvinho, il s'était planté sur toute la ligne.
Ouais, mais après, les derniers bons choix, excuse-moi, c'est quand même Juninho qui les prend.
Bon, c'est vrai.
Les Guimarães, Paqueta, c'est lui qui les ramène, il ramène une bonne dynamique. Il avait une vision football qui était intéressante. Si tu lui mets un coach qui va dans le même sens que lui,
ce que veut dire Farid, je pense, c'est qu'il faut rester aussi mesuré parce qu'il a fait du bon et du moins bon aussi. Juninho, faut pas le voir non plus.
Ouais, mais quand tu vois qu'il y avait du Bruno Chéou, etc. et tout, à la place, moi, je le prends tous les jours, en fait. C'est ça que je vais te dire.
Ça montre à quel point ça va pas. On est prêt à prendre des mecs qui ont fait des conneries, des
c'est pas le même contexte. Avec il avait les mains liées, exactement. Il prenait des décisions le lendemain. On lui disait bah non, attends, je
avec Garcia, comme ça. Ça a été horrible.
Exactement. Garcia, apparemment, ça n'a pas été son choix. Ouais. Donc, en même temps, là, on va pouvoir le juger parce que s'il a, il revient. Il a dû négocier les pleins pouvoirs, des conditions. Et effectivement, on jugera après. Le problème, c'est qu'il arrive dans un club qui est aux abysses. Et là, le problème, c'est. Et pour redresser ce type de club, en tout cas ce type de situation, si t'as pas l'habitude de l'avoir déjà fait ailleurs, c'est très compliqué.
Donc pour terminer avec Farid, on revient.
Ouais, cher Bilal.
Ouais, on termine.
Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a aussi un certain David, j'ai oublié son nom d'ailleurs, David Griot, qui vient de Marseille, qui va être nommé directeur sportif. Il faut savoir qu'à Lyon, si mes souvenirs sont bons, c'est une première. On n'a jamais eu de directeur sportif, nous, à Lyon. Vous savez qu'à l'époque, il y a eu Bernard Lacombe.
Lacombe, conseiller d'Olas.
Et on a eu Gérard Houllier, qui était conseiller d'Olas.
C'est vrai.
Et ensuite, vous aviez Olas, c'est l'entraîneur en direct.
Après, on avait des flumoristes, mais c'était plus des chefs recrutement, quoi.
Voilà, ce que je voulais dire, c'était
une erreur.
Conseil technique, choisir des bons joueurs, il n'y a pas de problème. Mais attention, conseiller sportif d'un propriétaire président, ça amène à donner une orientation au club. Et je suis désolé, Juninho n'est pas Bernard Lacombe, n'est pas Gérard Houllier.
Textor, c'est pas Olas.
Textor, c'est pas Olas, selon Jésus.
On va pas comparer quand même. Mais j'ai hâte de voir, parce que là, on nous apprend que le nouveau directeur sportif devra choisir l'entraîneur. Donc je me dis, à quoi va servir le conseiller sportif Juninho auprès de Textor. Donc j'ai un peu de mal à voir comment ça va se caler tout ça.
Tu vas me dire ce que t'en penses, Farid.
Merci.
Vas-y, Farid. Mais du coup, comme tu viens de nous dire, le directeur sportif sera en charge de prendre le futur entraîneur, donc David Friot, qui est le directeur sportif, qui, quand il était à Marseille, était déjà intéressé par Bruno Genesio. Qu'est-ce que toi, tu penses, en tant que supporter lyonnais, d'un retour de Bruno Genesio?
Sincèrement, Bruno Genesio, il a un peu souffert sur la fin à Lyon. Moi, j'étais pas pour qu'il entraîne les 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Lyonnais, ils voulaient passer un cap. Et forcément, pour passer un cap, vous attendez un nom assez ronflant, vous voyez? Sauf que Bruno Genesio, quand il a été placé par Jean-Michel Aulas, il a fait 6 mois Tony Truant.
C'était pas prévu qu'il reste.
Et le problème, c'est qu'en Suisse, on a un peu stagné les deux années d'après. Bon, c'est un bon gars. Je pense que s'il revient aujourd'hui, c'est un peu comme un pompier de service. Je me dis pourquoi pas, il a engrangé quand même, ça fait 5 ans qu'il est parti, il amènera un petit peu l'expérience qu'il a acquis, qu'il n'avait pas avant.
Farid, voilà. Je me permets juste une chose,
parce qu'on a fallu pour revenir sur le niveau de cette ligue.
Il faut savoir que là, Bruno Genesio, il est sorti rincé de Nantes, de Rennes, excusez-moi. Ouais. Il est sorti rincé de Rennes.
Oui, c'est embrouillé. J'ai même embrouillé avec le staff lyonnais.
Voilà. Je vois pas comment. Et surtout quand on vire un entraîneur quand il était à Lyon.
Attention à Lyon alors.
La première chose qui fait qu'on le vire, c'est les résultats. Il y a une autre chose, il y a les joueurs, mais entre les deux, il y a aussi des personnes en interne qui lui mettent des coups de couteau dans le dos pour qu'il sorte.
Donc revenir
dans un club avec tout ça, pour moi, ça me paraît très très compliqué.
Merci Farid d'avoir été avec nous.
Protégé par Juninho, je pense qu'il sera protégé.
Bon, on verra s'il sera protégé en tout cas.
Un grand merci Farid.
Au 01 53 48 3000. On va s'attarder sur justement le niveau de ces clubs français en Coupe d'Europe, hein. Le Paris Saint-Germain aussi, introuvable. Le Paris Saint-Germain.
Le PSG qui est censé être comme d'habitude la tête d'affiche du football français en Coupe d'Europe qui a déçu clairement en milieu de semaine face à Newcastle, qui a encore son destin entre ses mains.
Bien sûr,
on sait pas par quel miracle, mais
première
c'est le cas.
Ou seconde place.
Voilà, faudra aller gagner à Dortmund avec Dembélé suspendu bêtement, avec des joueurs on sait pas dans quel état d'esprit ils seront, parce qu'on sait que le PSG en Ligue des Champions ça voyage très mal, surtout dans les ambiances hostiles comme au Signal Iduna Park. Donc on a de quoi aussi s'inquiéter. pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait aussi, et Enrique l'a dit directement en arrivant, la Ligue des Champions, c'est pas une obsession. Alors oui, il y a de la com. Il y a de la com. Moi, je ne crois pas sur parole. Pas parce qu'il dit ça qu'il faut aller chercher.
Tu peux pas dire. Si tu viens au PSG, quand tu es Luis Enrique, tu n'as pas visé la Ligue des Champions. Il y a
de la com. Il y a de la com. Mais en disant ça, déjà, il a anticipé que c'était une année de transition pour une énième année de transition pour le PSG. Mais là, voilà, on a quand même viré les stars, les grosses stars, à part bien évidemment Kylian, qui est toujours là. Il a quand même anticipé les choses. Et tu sens que même dans son discours en début de saison, il n'a pas totalement exclu, en fait, l'idée qu'en Ligue des Champions, ça se passe mal. Alors, de là à partir en Europa League dès l'hiver, ça, je suis pas sûr que ce n'est prévu non plus. Mais ça ferait tâche pour le Paris Saint-Germain, version QSI, qui était quand même finaliste de la Ligue des Champions il y a encore 3 ans.
Ouais. Alors, moi, je te rejoins en partie. Après, moi, c'est vrai que moi, ce qui m'a impressionné sur le match, je trouve que le Paris Saint-Germain, on a vraiment vu un Paris Saint-Germain en dents de scie qui a vraiment eu des très bonnes périodes. Il fait un premier quart d'heure absolument fantastique où ils mettent une pression, où ils peuvent prendre l'avantage, et derrière, tu sens que ça s'éteint quand t'as l'ouverture du score des équipes de Isaac de Newcastle. Et puis surtout, en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la tactique. En fait, ils se sont fait une nouvelle fois face à Newcastle bouffer techniquement et tactiquement. Tu vois que quand ils mettent le but derrière au milieu de terrain, le milieu de terrain, Guimarães, à lui tout seul, a pris le milieu de terrain parisien lui tout seul.
Tranquille.
Il faisait ce qu'il voulait dans les phases défensives comme dans les phases offensives pour ressortir le ballon et ramener le jeu vers l'avant. C'est-à-dire que même quand tu regardais le déplacement des joueurs de Newcastle, c'était une chorégraphie. C'était
rodés.
Magnifique. C'était splendide.
Ouais,
c'était...
Je suis pas d'accord avec toi. Ils ont quand même eu beaucoup d'occasions, et c'est sur le dernier geste qu'il y a eu un problème.
Et parce
donc,
que c'était bien
que tu
aussi,
dises que Newcastle les a gérés tactiquement, je suis pas trop d'accord parce que c'est sur le dernier geste où il y a eu un grand manque, où il y a eu
des immanquables, il y a eu aussi beaucoup de possessions stériles. Il va falloir parler aussi du PSG. On va pas s'attarder sur eux parce qu'il y a d'autres clubs en France en ce moment. C'est compliqué pour beaucoup de clubs. On parlait de Lens en début des émissions.
Marseille aussi, c'est compliqué.
Il va falloir aussi comprendre. Les années passent, les projets changent, mais il y a des erreurs qu'on comprend qui se répètent. On achète deux numéros 9 à quasiment 200 millions d'euros. On les utilise pas. Pourquoi? On centre pas.
Va savoir
on
pourquoi.
Centre jamais.
Mais
on les on s'appuie jamais.
Je vais dire la vérité. Moi, je vais faire un focus sur l'ensemble du football français.
À quoi servent-ils?
Là, les équipes, elles manquent de caractère. Elles mangent de gros joueurs qui ont du caractère. Au PSG, il y en a aucun. Il y a plus d'Ibrahimovic. Il y a plus de Cavani qui arrivait, etc. Alors, c'était pareil. Ils sont là. Ils se battent, etc. Mais t'as plus de gros caractère, exactement, qui va influencer l'arbitre, qui va essayer de tourner le risque,
qui va ramener du risque,
va te permettre de passer un stade et de faire des gros matchs.
Ce soir, Marseille face à l'Ajax, 5e journée de cette Europa League, 21h du côté de l'Orange Vélodrome. Anan, ton pronostic, on en débattra demain, nous.
1-0 pour Marseille, mais vraiment
1-0. On l'aura compris, ça sera 1-0 pour l'Ajax Amsterdam pour Anan. Hein. Il veut
non,
pas
non,
dire mon
1-0 pour Marseille.
Deux partout. Jason.
Allez, un match nul. Ça va pas. Ouais. L'Ajax, ça va pas.
Un match nul.
Ça va mieux. Ça va un tout petit peu mieux. C'est deux équipes très malades.
Un vieux 0-0 ennuyant. Et puis, voilà.
Julien est OK. On le rappelle, ancien sportif et aussi fondateur de Scalable.
Plutôt Paris.
Alors, justement, pour le cycle, Marseille-Ajax ce soir.
Je vais rester sur. Je vais suivre le 1-0.
Le 1-0.
Pour Marseille.
Pour Marseille. OK.
Ah bah voilà.
Ouais. On verra bien. Cette OM. Un grand merci à Julien et à toute sa troupe aussi de nous avoir suivis dans ce studio. Ouais. À Greg aussi qui nous a accompagnés durant toute cette émission. Peut-être une petite dédicace à faire ou des dédicaces, non? Julien.
Dédicace à la team. Merci beaucoup pour le job.
Et aussi aux personnes qui vous accompagnent sur Scalable.
C'est elle que je viens dédicacer.
Allez, vous restez avec Solal, justement, chers auditeurs et auditrices de Bord FM. Il y a Vanessa qui arrive, 21h-23h. Et nous, on annonce un 2-0. Voilà, c'est Nasser.
Moins 0-0, perso.
L'Ajax d'Amsterdam. Allez, à demain.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Bord FM.